Bonjour à tous, bienvenue dans l'économie en VO, notre débat économique sur la Web TV, la bourse et la vie.com. Dans ce magazine, à nouveau, nous allons aborder les questions de mondialisation, comment les entreprises font face ou profitent de cette mondialisation dans un contexte de crise. C'est pas évident de parler de ce sujet et je vais remercier les trois invités qui sont venus en parler avec nous aujourd'hui. Xavier Fontanet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Essilor. Vous passerez la main en janvier 2012.
2 janvier.
Après 20 années passé.
Oui, 20
Silor, une expérience bien sûr que vous avez évoquée dans un livre. Si on faisait confiance aux entrepreneurs, on aura l'occasion d'en reparler. Autre invité avec nous, François Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant international. On avait l'occasion d'évoquer ce sujet il y a pratiquement 2 mois maintenant avec Bertrand Collomb, PDG de la FAO. Vous étiez également notre invité. Vous avez écrit, vous, la mondialisation sans peur, pas sans risque.
Oui, absolument.
On va y revenir avec vous. Et puis Alexandre Kateb, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes économiste et vous avez écrit, vous, un livre sur les BRICS, ces fameuses puissances émergentes qui sont de moins en moins émergentes, qui sont émergées de plus en plus. On verra avec vous qu'est-ce que ça peut apporter, comment elles redéfinissent peut-être le monde qu'on est en train de vivre. On va voir donc ça avec vous. Peut-être pour commencer avec vous, François Martin, pour revenir, quand on voit cette crise financière, boursière, dans la zone euro, les questions de dette souveraine, parler de compétitivité aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en dehors du sujet principal ?
Ben, c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un espèce de jeu de vidéo où tout explose. Alors on voit exploser les marchés, on voit exploser les banques, on voit exploser les dettes, on voit exploser les pays les uns après les autres. Alors on se dit c'est la catastrophe. Et puis en même temps, si on essaye de garder un peu son sang-froid et qu'on regarde les choses d'un peu plus haut, on se dit finalement il y a quand même un certain nombre d'enseignements à tirer qui sont positifs. Un des premiers enseignements, c'est que c'est pas la catastrophe partout, puisque la croissance mondiale en moyenne est de 4,5%. Donc, je veux dire, ça veut bien dire qu'il y a des pays qui marchent, donc qui marchent même très bien. Bon, donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est le fait que à quelque chose malheur est bon, parce que en fait, on sort d'une période postcoloniale où nous avions un désavantage éhonté. Et aujourd'hui, tout le monde est sur le même plan. Alors, nous n'avons pas les mêmes avantages et les mêmes difficultés dans les pays du Nord et du Sud. Je dirais que les pays du Sud, ils bénéficient d'une main-d'œuvre importante à bas coût, mais ils ont en inconvénient le fait de devoir financer leurs infrastructures, de créer leur marché intérieur, de monter en technologie. C'est quand même des sacrés défis. C'est des sacrés défis. Nous, tout ça, nous en disposons, nos infrastructures, elles sont payées. Par contre, nous avons le poids de nos retraités, c'est-à-dire notre main-d'œuvre qui est moins importante et qui est chère. Mais bon, chacun a ses atouts. Donc, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que on parle si peu de la compétitivité, parce que finalement, c'est chacun est sur la même ligne, on remet les compteurs à zéro et puis tout le monde se bat. Que le meilleur gagne. C'est plutôt sain. C'est plutôt sain, plutôt positif. Alors, simplement pour terminer, je dirais que dans cet aspect de compétitivité, il y a deux aspects. Il y a la compétitivité, dans la compétitivité globale, il y a la partie publique, c'est-à-dire le coût du service public. Ça, c'est un grand sujet dont on va parler. Je crois que Monsieur Fontanet, c'est un sujet que vous aimez bien. Et puis, il y a d'autre part la compétitivité des entreprises, les grandes et les petites. Alors là-dedans, il y a des recettes. Voilà. Je crois qu'il faut parler de tout ça.
Mmh. Alexandre Kateb, sur ces pays, sur ces BRICS, vous parlez, vous, de convergence, effectivement, en disant que finalement, le monde s'est rééquilibré. Alors, on ne s'en est pas forcément encore bien aperçu, on ne s'en rend pas complètement compte. Qu'est-ce qui a fait cette convergence, finalement ?
Oui, c'est vraiment un changement systémique. On parle beaucoup de pays émergents. Mais pour moi, plus que de pays émergents, c'est effectivement cette notion de grande convergence, quelque part, entre les pays occidentaux, qui ont eu leur phase de développement industriel, d'urbanisation, etc., au cours des 2 derniers siècles. Et puis, ces grands pays émergents qui ont démarré plus tard leur industrialisation, leur développement, et qui aujourd'hui s'affirment par leur poids démographique et territorial comme les vrais moteurs de l'économie mondiale. Et c'est à ce titre que moi je parle de grande convergence qui fait suite finalement à cette grande divergence provisoire apparue entre l'Occident et le reste du monde. Et aujourd'hui, je crois que sur le plan économique, on commence à intégrer cette réalité, on commence à la voir en tout cas, mais dans les mentalités, il y a quelque chose qui n'a pas changé. On n'a pas encore réalisé les implications systémiques, je dirais, et toutes les dimensions de ce grand changement. De cette grande convergence.
On n'a pas vu, en tout cas la plupart des habitants n'ont pas vu cette évolution. On le voit quand on achète un t-shirt qui est sans doute Made in China, Made in Malaisie, etc. Mais on n'a pas vu concrètement les changements qu'il y avait derrière. C'est-à-dire qu'on voit de la technologie, on voit aussi d'autres choses importantes sur ces pays.
On le voit de manière, je dirais, assez superficielle, hein, parce qu'il y a quand même le principe de proximité qui est aussi un bon principe. Mais on garde notre vision du monde qui est centrée sur l'Occident, qui est centré sur les évolutions du dernier siècle, et on a du mal à se projeter vers le futur, à imaginer que demain le centre financier de la planète ce sera plus New York, ce sera Shanghai, que demain l'essentiel de la production manufacturière se fera en Inde et peut-être en Afrique. Donc ces grands changements systémiques, et même au niveau des valeurs, on en parlera peut-être, mais il y a une véritable redéfinition du monde, et je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment le réaliser pour retrouver sa place, comme le disait François, dans ce monde, et pour être sûr de garder sa compétitivité, voire d'accroître sa compétitivité. Parce qu'on a des choses à apporter aussi au monde, mais aujourd'hui, il faut vivre avec les autres, il faut apprendre à partager, je dirais, ce monde, et apprendre effectivement à voir ce que les uns et les autres peuvent gagner de ces échanges.
Xavier Fontanet, cette mondialisation, hein, vous l'avez vécu, bien entendu, à la tête des Sealors, elle a été rapide, et Sealors ne pouvait pas la rater, c'était une question de vie ou de mort de l'entreprise si elle avait raté cette internationalisation.
Non, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire que les Siciliens, depuis qu'ils sont nés, sont des gens qui sont à la conquête. Hein. Le verre ophtalmique, c'est un produit qui est assez cher et qui circule très bien, donc depuis déjà 40 ans, l'affaire était mondialisée. Donc ça a beaucoup accéléré depuis 20 ans, mais ça a toujours été très, ça a été très très mondial. Et en fait, cette période, vous voyez, on la vit assez bien, vous évoquiez le 4,5% de croissance du monde, je crois que le monde n'a jamais cru aussi vite. Depuis qu'il existe, le monde économique. Et en fait, ça fait, nous, 40 ans qu'on a conquis. Alors, moi, je me rappelle les premiers investissements en Chine, ils datent d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque où personne n'était là, on était parmi les premiers à monter des usines, à faire des premières joint ventures. Et comme depuis 20 ans, ça poussait beaucoup, aujourd'hui, on a pratiquement notre chiffre d'affaires qui est proportionné au PIB mondial. Oui, la France, c'est à peu près 5% des volumes. Donc, c'est 95% se fait. Et donc, nous, on a la chance, comme on a préparé ça depuis très, très longtemps, de bien vivre la période. Alors, c'est très, très difficile quand beaucoup de gens souffrent de dire qu'on vit bien, mais il faut aussi dire qu'il y a les trucs qui tournent, parce que si on ne parle que de ce qui ne va pas, on détraque les gens. Et je crois qu'en fait, l'économie tourne assez bien. Je trouve d'ailleurs qu'avec tous les dégâts médiatiques, avec le fait que ça continue à tourner, ça montre que c'est beaucoup plus costaud qu'on croit, mais c'est une expérience fantastique. Je peux dire que pour la maison ici, Sealors, si vous voulez, avoir eu la chance de pouvoir rentrer aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, pouvoir attaquer l'Asie il y a 15 ans, et puis vraiment pousser très très fort en Chine, en Inde et au Brésil depuis 5 ans, on a des taux de croissance de 20-25% dans tous ces pays.
C'était des paris quand même importants, parce qu'on se souvient par exemple des États-Unis où les marchés à l'époque, hein, parce que ici, Sealors est coté en bourse.
Il est vrai que les marchés ont toujours la frousse, et qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que la vocation c'est d'être européen, multiproduit, et on a, donc avec des verres, des montures, et nous on avait toujours la conviction qu'il fallait être monoproduit et totalement mondial. Donc c'est vrai que quand en 95 on a mis des très grosses sommes aux États-Unis, le marché, même les Américains, ont eu peur, et heureusement les actionnaires salariés des Sealors n'ont pas eu peur, c'était les plus courageux dans toute cette affaire, et donc ils ont été bien bénéficiés d'ailleurs. Hein. Mais effectivement, il a fallu attaquer les États-Unis, et une fois qu'on a réussi à être fort aux États-Unis et en Europe, à ce moment-là on a pu débouler sur le Japon, la Corée, et puis après ça on est parti vraiment très fort sur Chine et Inde. Mais Chine et Inde, on a mis les premières petites graines. Les usines, on les avait semées déjà dans les années 90. Et on avait déjà des usines qu'on appelle délocalisées, mais chez nous, on appelle ça relocalisées, en Thaïlande et aux Philippines, déjà il y a 30 ans. Hein. Et ces usines, déjà, avaient commencé à faire des petits réseaux commerciaux. Donc en fait, si vous voulez, on vit bien cette période parce que ça fait 40 ans ou 30 ans que tous les Siciliens savent que la conquête du monde, c'était la nécessité. Et ça a été pour nous fabuleux. Ça nous a permis d'améliorer les produits, d'améliorer la technique de gestion.
En même temps, donc, vous le dites vous-même, délocalisation, relocalisation. C'est vrai que ça a été le débat des derniers mois, des dernières années, de se dire, finalement, on a d'ailleurs un économiste qui a écrit « La France sans usine ». On se souvient de ce qu'avait dit le PDG d'Alcatel.
On s'en est complètement compte, nous. Hein. Ouais. On est des industriels, alors on y croit beaucoup. Hein.
Donc, voilà, c'est, comment alors, on a vécu ça? Parce que délocalisation, on n'est pas alors, loin, on n'en comprend pas.
Si vous voulez, c'est passé, c'est très intéressant, il y a 30 ans, si vous voulez, c'était mes prédécesseurs, quand on avait des systèmes qui étaient continentaux, c'est-à-dire que les usines européennes sur l'Europe, les usines américaines sur l'Amérique et les usines asiatiques sur l'Asie. Puis on a un concurrent japonais qui a commencé à utiliser les usines japonaises, les usines asiatiques thaïlandaises pour attaquer l'Europe. Alors comme les salaires étaient à l'époque 30 fois plus bas ou 20 fois plus bas, et ça faisait des dégâts. Donc Essilor, évidemment, qui n'est pas prêt à lâcher le moindre pouce de territoire, a monté des usines. Et alors, il y a 30 ans, mon prédécesseur Temkin et Grand Perret m'ont montré les coupures de presse qu'il y avait en disant « Qu'est-ce que c'est que cet Essilor qui fait de l'argent ?» On délocalisait une usine à Dijon. Bon, heureusement qu'ils y sont allés. Parce que quand vous faites cette opération, que vous êtes rentable et que vous le faites 10 ans d'avance, vous avez largement le temps de reconvertir les gens. Et comme la délocalisation, c'est rentable, vous mettez tout l'argent dans la reconversion. Alors, ce qui se passe après, c'est que localement, vous créez beaucoup de pouvoir d'achat. Donc, vous faites du bien dans l'usine, en Philippines ou en Thaïlande, où on s'est mis. Et comme on reconvertit les gens, vous faites grimper le pouvoir d'achat en France. En France, les effectifs ont monté de 0,5% par an depuis le début de la maison, mais les salaires versés de 6%. C'est-à-dire qu'on est passé de 80% ouvriers à 35% ouvriers. Et les enfants de nos ouvriers, la patronne de la CGT, ses enfants sont juristes. Donc en fait, on a complètement reconverti et on a créé du pouvoir d'achat. Et je pense que l'un des éléments qui nous permet, Essilor, de bénéficier de cette période, c'est qu'on a des réseaux commerciaux partout, on a des centres de recherche, et donc par les royalties, on récupère, on bénéficie de la mondialisation. Mais c'est parce qu'il y a 40 ans, il faut penser aux 150 personnes qui ont fait du 500 000 km par an, les gars qui sont passés avec leurs femmes et leurs enfants, qui ont pris les valises, qui ont été s'installer dans des coins perdus. Tous ces gens-là, ils ont fait un boulot absolument sublime. Et ça, il faut le dire. Et je pense que, la France, c'est 5% du PIB. Il faut voyager.